Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! On dit de ce drapeau qu'il est l'ancêtre du fleur-de-lysée québécois. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la bannière de Carillon, un étendard aux origines mystérieuses.
Nous continuons de propager, nous autres, beaucoup par nos confrères de grand séminaire, le drapeau Carillon, qui dans le temps était le drapeau Carillon Sacré-Cœur, que Monseigneur Paul-Eugène Roy demandait au curé d'installer là, en avant de leur presbytère, que Monseigneur Léonard de Rimouski propageait dans tout le diocèse de Rimouski. Si un curé voulait être bien vu dans le diocèse de Rimouski de son évêque, en 1922-23, il fallait qu'à l'entrée de son presbytère, on aperçût le drapeau fleur-de-lysée.
Les propos de Pierre Gravel, curé de Bois-Châtel, c'était à notre télé le 19 janvier 1968. Il y était question de l'ancêtre du fleur-de-lysée, le fameux drapeau de Carillon, dont il existe plusieurs descriptions. 213 cm de largeur, 307 cm de longueur, un fond vert, très pâle, qui fut peut-être jadis du bleu, d'où le fameux bleu ciel du drapeau actuel. Mais la bannière de Carillon, c'est aussi la naissance d'un mythe, un drapeau aux origines mystérieuses, qui aurait flotté pour la première fois à la bataille de Carillon de 1758, remporté par un certain Montcalm.
La bannière de Carillon, qu'est-ce que c'est ça?
Ça, c'est le Carillon, la victoire de Carillon, qui est célèbre. En 1758, Montcalm, avec 3 600 Canadiens français, ont mis 15 000 Anglais en déroute. Et certains historiens rajoutent même 20 000 et 25 000.
Mm-hmm. Mais là, l'histoire... On va rester un petit peu dans la juste moyenne. Oui.
Et puis, cette bannière est célèbre, surtout de par sa légende qui a traversé toutes les terres québécoises, et à savoir que... On racontait que lors de la bataille de Carillon, la Vierge serait apparue au-dessus des combattants, en face des Anglais. Les Anglais auraient cru à une apparition. Et les balles des Anglais seraient allées se perdre dans les plis de la robe de la Vierge qui était sur la bannière de Carillon. C'était la légende qui a couru pendant longtemps.
Mais il y a d'autres légendes aussi au sujet de la bannière de Carillon.
Hein? Il y a beaucoup de controverses au sujet de la bannière. On raconte que c'est un faux, que la couleur est différente. Certains ont prétendu que ce n'était uniquement qu'une bannière d'une congrégation de la Vierge.
Mais la bannière de Carillon, est-ce qu'elle existe encore?
Oui, elle existe encore.
Elle doit être en petits morceaux?
Elle est en lambeaux. Il existe des photographies actuellement des lambeaux de la bannière de Carillon qui est à l'Université Laval aux archives.
Mythes et légendes autour de ce fameux drapeau à propos de Louise Laforce, banniériste. C'était au micro d'Andréane Lafont à notre radio le 11 mars 1982. Alors depuis, les informations peut-être changées. Pour nous en parler, Dave Noël, il est journaliste au Devoir, historien, auteur du livre « Montcalm, général américain » publié en 2018 chez Boréal. Bonjour Dave.
Bonjour Maxime.
Alors, pas facile de départager le vrai du faux dans le cas de ce fameux drapeau, et d'autant plus que c'est un drapeau qui est tombé dans l'oubli. Alors pourquoi il demeure pertinent?
Pourquoi il demeure pertinent? Ben, par l'entremise du fleur-de-lysée, qui est le drapeau officiel du Québec depuis 1948. L'original, lui, a été complètement oublié, comme on l'entendait dans l'extrait. Il est maintenant conservé, en fait, au Musée de la civilisation à Québec. Où les gens ne pensent pas aller le voir spécialement. Donc, lui, il est vraiment resté à l'ombre, tandis que le fleur-de-lysée, il est partout dans notre paysage, sur les mâts. Il a été mis en berne récemment pour Guy Lafleur. Donc, c'est ça, c'est vraiment un symbole qui est très présent, mais en même temps, paradoxalement, qu'on connaît très mal.
Oui, bien, tout à fait. Alors, commençons par les origines. C'est quoi, ce fameux drapeau de Carillon?
Eh bien, premièrement, son ancienneté ne fait pas de doute. C'est vraiment un drapeau qui date du 18e siècle, la première moitié. Ça, on le sait notamment en raison du tissu, mais également en raison de la présence des armoiries du marquis de Beauharnois, qui était le gouverneur de la Nouvelle-France entre 1726 et 1747. Donc, on a les armoiries de Beauharnois qui sont sur le drapeau. On a aussi un symbole de la Madone, donc la Vierge Marie avec l'enfant Jésus qui est au centre du drapeau. Et dans les quatre coins, on a les fleurs de lys qui pointent vers le centre. Donc, c'est vraiment les fleurs de lys qui sont l'élément qui va rester sur la copie, qui va devenir le drapeau du Québec. Mais donc, c'est un étendard. L'origine de la couleur, c'est dur à dire. On a longtemps cru que le fond était bleu. mais en fait, ça serait plutôt blanc ou jaune pâle. Donc, avec la décoloration, il y a eu une confusion. Et puis, cette confusion-là a amené l'auteur de la copie du drapeau qui allait mener au drapeau du Québec à choisir l'azur comme fond de notre drapeau actuel. Donc, alors qu'il aurait dû être plutôt blanc si on s'était vraiment fié à la couleur du drapeau original.
Oui, tout à fait, parce que bon, il a défraîchi avec le temps. Est-ce qu'il est en lambeaux en ce moment, conservé, c'est quoi, c'est en partie?
En fait, il est en lambeaux, c'est un drapeau très ancien, mais il a été quand même restauré dans les années 90. Il a été vraiment, déposé sur un carton et remis en état, mais en même temps, il y avait des portions qui étaient complètement irrécupérables. Heureusement, il y a des descriptions qui ont été faites, des dessins qui ont été faits dans les années 1900. Donc, on sait à quoi il ressemble, mais aujourd'hui, faut le regarder de loin pour avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est exactement. Les fleurs de lys, il y en a certains qui sont complètement dégradés, d'autres qu'on voit un peu mieux. Mais c'est ça, il existe toujours. Mais quand il était exposé au Musée de la civilisation, on l'exposait avec une lumière. Le visiteur devait appuyer sur un bouton pour le regarder quelques secondes et ensuite la lumière se fermait. Donc, on essayait de ne pas le surexposer pour ne pas contribuer à la dégradation en cours.
Mmh, oui, tout à fait. Puis il faut s'imaginer, effectivement, vous l'avez dit, la couleur, mais dans notre camp, en tout cas, ça s'est transformé en bleu azur ou bleu ciel. Hein. À quel moment, parce que là, jusqu'à maintenant, c'est une diffusion qui est assez discrète, à quel moment ce drapeau-là ou les suivants vont apparaître en public?
On a une date très précise, c'était la Saint-Jean-Baptiste de 1848. C'est là que le drapeau de Carillon est signalé pour la première fois. À ce moment-là, c'est un dénommé Louis de Gonzague Baillargé, qui est un avocat fortuné de Québec, un ami de François-Xavier Garneau, l'historien. Lui, il parade à la Saint-Jean-Baptiste et il a ce drapeau-là qu'il déploie au vent. Donc, à ce moment-là, on peut penser que certains morceaux ont dû partir dans les rues de Québec. Donc, c'est ça, c'est lui qui le met de l'avant. Et le Journal de Québec de l'époque, donc pas celui qu'on connaît aujourd'hui, signale ce drapeau-là au milieu d'autres étendards qui sont brandis à la Saint-Jean-Baptiste, qui était à l'époque la fête des Canadiens français comme aujourd'hui. C'est ça, ce drapeau-là, Béargé, en fait, c'est par lui qu'on a la tradition orale qui rattache le drapeau à la bataille de Carillon de 1758. Lui, il raconte que c'est le père Félix Berry des Essarts, un Récollet, qui l'aurait ramené de la bataille des Plaines d'Abraham, qui l'aurait déposé à l'église des Récollets de Québec. À cet endroit-là, le drapeau aurait été accroché à la voûte de l'église jusqu'en 1796, quand le bâtiment est rasé par un incendie. Et selon la version de Baillargé, le drapeau aurait été sauvé miraculeusement. Les attaches qui tenaient le drapeau auraient brûlé et le drapeau serait tombé au moment où on évacuait les objets de valeur de l'église. Et c'est un autre frère, Louis Martinet, dit Bonami, qui lui le récupère au sol et le met dans son grenier de la rue Saint-Vallier. Et c'est là que Baillargé dit l'avoir retrouvé en janvier 1848. Le récit est assez amusant. Il raconte qu'il s'est présenté là tard le soir, il avait une chandelle, il monte au grenier, il fouille dans les malles du frère Louis, qui était à ce moment-là paralysé dans son fauteuil, un vieillard, et il trouve le drapeau de 3 mètres de long par 2 mètres de large, et il le ramène, et le frère Louis lui dit « Gardez-le, je vous le donne ». Et le frère Louis, qui aurait peut-être pu témoigner par la suite de l'histoire, lui, il décède 6 mois après la découverte du drapeau. Donc, on a vraiment la version de Baillargé. Et c'est ça le problème, l'enjeu de l'histoire, c'est qu'on soit on se fie à ce qu'il dit, soit qu'on le rejette complètement. Et c'est ça, c'est vraiment difficile de trancher sur l'origine du drapeau.
Oui. Bien, sûrement que l'histoire a été un peu romancée. Il y aurait quelques nuances à apporter, mais il y a peut-être aussi un fond de vérité. Quoique plusieurs mythes et légendes, hein, on le disait, liés à ce drapeau-là. Mais vous dites, on le sort pour la première fois lors de la Saint-Jean-Baptiste en 1848. Quelle signification lui donne à ce moment-là?
Eh bien, à ce moment-là, le journaliste qui rapporte la présence du drapeau le décrit comme un vieux drapeau français. C'est vraiment, on est dans la nostalgie. Faut pas oublier qu'en 1848, on n'est pas très longtemps après la conquête. La conquête britannique, elle date de 90 ans. Finalement, on n'est même pas au centenaire de l'événement. Donc, les gens sont très proches de cet événement-là, notamment, par exemple, Garneau, c'est son grand-père est un contemporain de la conquête. Ses oncles lui ont raconté des événements, des batailles où ils étaient présents. Donc, c'est vraiment un événement qui est dans l'actualité. C'est un peu comme si aujourd'hui, on parlait de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un événement qui est présent et ce drapeau-là évoque une certaine nostalgie de l'ancienne colonie française. On est vraiment, c'est ça, purement dans la nostalgie. Et ce drapeau-là a une espèce d'allure mystique, d'autant plus que Baillargé, après la première année où il l'a exposé au Grand Vent, il va décider de parader encore avec lui, mais sous un fourreau de toile. Donc, le drapeau est enroulé sur sa hampe. On lui met un fourreau par-dessus de couleur rouge et on le fait défiler dans les rues de Québec comme ça, ce qui ajoute un peu au mystère ce drapeau-là. C'est quasiment les tables de la loi. Les gens sont très émus en voyant ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver parce que le poète Octave Crémazy, en 1858, donc pour le centenaire de la bataille de Quérillon, on va écrire un poème, Le drapeau de Quérillon, qui va renier par la suite parce que c'est un peu, c'est un peu sucré comme poème. Là, c'est vraiment, on est dans le romantisme pur. Et c'est ça, donc c'est par le poème que l'histoire du drapeau va sortir de Québec parce que Baillargé est un homme un peu spécial. Le drapeau, il refuse qu'on le déploie devant qui que ce soit. Il le garde chez lui. À la Saint-Jean-Baptiste, c'est les zouaves pontificaux qui doivent venir le chercher pour le faire parader au son de la Marseillaise.
Ah, oui.
Donc, il y a vraiment des exigences très précises. Et mais c'est le poème de Crémazy qui va faire en sorte qu'on va en parler partout au Canada et même en France où il va devenir connu à l'étranger, donc par ça.
De façon, on vous le dit, très lyrique là, quand il est question de ce fameux drapeau. Donc, encore là, évolution du drapeau. À partir de quel moment les Canadiens français commencent à manifester leur envie ou la volonté de se doter de leur propre drapeau?
Oui, c'est ça. Ça, c'est un sujet complexe en soi. Donc, on se rappelle, pendant les rébellions patriotes, le drapeau qui était utilisé, c'était un autre drapeau, le tricolore. Le tricolore français au départ, mais qui rapidement va devenir le vert, blanc, rouge, qui est un drapeau républicain, un idéal vraiment de ce type-là. Et il va y avoir aussi d'autres drapeaux qui font un peu inspirer des drapeaux qu'on voyait pendant la Révolution américaine, des drapeaux avec des messages, des symboles un peu complexes, notamment le drapeau de Saint-Eustache, où on a un masquinongé qui est brodé sur le drapeau. Donc, il y a vraiment eu un magma de symboles à ce moment-là. On ne sait pas trop vers où aller. Le castor est présent. Mais donc, c'est ça, cet étendard-là va évidemment être mal vu après les rébellions patriotes, après la victoire des Britanniques, ce qui fait en sorte qu'on va se tourner plus vers carrément le tricolore français, le bleu-blanc-rouge, d'autant plus qu'au milieu du 19e siècle, la France redevient fréquentable pour l'Empire britannique, notamment en raison de la guerre de Crimée. Donc, c'est ça, on revient vers la France et on penche vraiment vers le bleu-blanc-rouge. Et d'ailleurs, les Acadiens, eux, l'ont gardé jusqu'à nos jours parce ils l'ont adopté, ils ont ajouté l'étoile jaune. Mm-hmm. C'est vraiment le drapeau de Quérillon qui va, entrer dans le débat, qui va faire détourner ce qui aurait pu nous mener à l'adoption d'une forme de tricolore français.
Mm-hmm. Donc, on s'inspire de ce fameux drapeau de Quérillon qui va inspirer le prochain, ou on pourrait peut-être dire le premier fleur-de-lysée, là, celui du curé Elfège Filiatreault.
Oui, c'est ça, un modeste curé de Saint-Jude en Montérégie. Lui, c'est ça, il conçoit un drapeau. En fait, il a vu les dessins faits sur l'original de Baillargé, et lui, il va seulement reprendre les fleurs de lys, en fait. Il reprend les quatre fleurs de lys qui pointent vers le centre, les fleurs de lys blancs, et il va donc prendre le fond bleu qu'il croyait être sur l'original, et il va ajouter la fameuse croix de Charles VII, qui va comme diviser les quatre fleurs de lys en cantons, comme on appelle, pour reprendre les termes héraldiques. Et on a souvent dit que la croix blanche et le fond bleu faisaient référence au drapeau de la marine marchande du temps de Champlain. Mais en réalité, quand on lit les écrits de Filiatreault, on voit que c'est plutôt les drapeaux de Montcalm qu'il a en tête. Donc, à l'époque de la guerre de la conquête, sous Louis XV, chaque régiment a un drapeau. Et ce drapeau-là reprend toujours le même modèle. C'est la croix blanche au milieu avec quatre cantons. Les couleurs varient, les symboles varient. Et lui, c'est à ça qu'il a ça en tête quand il fabrique son drapeau qu'il hisse sur son presbytère en 1902. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas le carillon Sacré-Cœur, qui est un symbole religieux qui va être ajouté au centre plus tard. Mm-hmm. Lui, il estime qu'on ne doit pas mettre ce symbole-là sur son drapeau parce que le drapeau va être utilisé pas seulement dans des processions ou dans des endroits convenables, il va être utilisé dans des foires un peu partout. Et lui, il estime qu'on doit garder le drapeau le plus simple possible. Et il refuse également, ça c'est intéressant, il refuse l'ajout du castor et de la feuille d'érable qui est à l'origine des symboles canadiens-français. Mais dès 1902, il considère que déjà ces symboles-là ont été un peu appropriés par l'ensemble du dominion canadien et il va décider, non, il faut aller vers les fleurs de lys et le bleu et blanc, donc c'est vraiment ses volontés.
Ah oui, la fleur de lys, bien sûr, qui rappelle le régime français. Et donc, c'est ce fameux drapeau, premier fleur de lysée, hein, qui va inspirer ce qui va devenir le drapeau officiel du Québec en 1948. C'est Maurice Duplessis qui va en faire le drapeau officiel. On va l'écouter lors de sa déclaration à l'époque 1948.
Un drapeau, c'est un emblème. Un drapeau, c'est un signe de ralliement. Un drapeau, c'est une manifestation de majorité. C'est l'illustration du désir de vivre et de survivre. Un drapeau, c'est la preuve que nous ne sommes pas en tutelle, que nous ne sommes pas en curatelle. Un drapeau, c'est dire que nous sommes quelqu'un, que nous descendons de quelqu'un, que nous voulons vivre notre vie et survivre dans le respect des droits de chacun, en exigeant le respect intégral de nos prérogatives, de nos droits et de nos libertés. C'est tout ça, un drapeau.
Maurice Duplessis, en 1948. Alors, pourquoi le Québec se dote de son propre drapeau en 1948? Est-ce qu'il y avait à ce moment-là, en 1948, un contexte politique ou nationaliste particulier?
C'est un mouvement qui était toujours présent. En fait, c'est que donc les partisans de Filiatro, ses successeurs, diffusaient le drapeau. Donc, il circulait, il était présent. On peut pas dire que Duplessis a seulement fait le mouvement final, disons, qui a mené vers l'adoption. Mais on avait, par exemple, René Chaloux, qui était un député indépendant. En fait, il y a eu plusieurs bannières au cours de sa carrière politique. Mais lui, il faisait vraiment la promotion de l'adoption du drapeau Fleur d'Élysée. Et donc, en 1948, Duplessis, on est en l'approche d'une réélection. Donc, lui, il décide de faire ce pas-là, de franchir le pas. Et par contre, il hésite un peu. Il se dit peut-être qu'on devrait ajouter les armoiries du Québec où on voit toutes sortes de symboles. Et on a même dit qu'il avait envisagé une couronne au centre du drapeau pour atténuer un peu le côté trop francophone, trop monarchie française de l'étendard. Mais finalement, il va tout simplement redresser les fleurs de lys. Les fleurs de lys, on se rappelle, pointaient vers le centre.
Oui, 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 toujours.
Parce que l'original, les fleurs de lys pointaient vers la Vierge Marie. Donc là, Duplessis consulte un héraldiste qui lui dit bon, au moins, on pourrait au moins redresser les fleurs de lys vers le haut. Et c'est ce qui va être fait et c'est le drapeau qui va être hissé. Par contre, au moment de le hisser sur le mât du Parlement, ce drapeau-là n'existe pas encore. Donc, on va prendre un drapeau vieux modèle qui, lui, a encore les fleurs de lys qui pointent. Mais rapidement, par la suite, on va en fabriquer des nouveaux qui sont adaptés à celui qui a été adopté.
Intéressant. Puis c'est d'autant plus étonnant parce que vous l'avez dit, hein, Maurice Duplessis n'était pas particulièrement chaud à l'idée au début. Mais voyant l'engouement, ben, il va se rallier. Alors, à ce propos, quelqu'un qui l'a côtoyé, Paul Bouchard, ancien député de l'Union nationale, c'est à notre radio, le 19 janvier 1973, à l'occasion du 25e anniversaire du drapeau du Québec.
Après avoir constaté que la majorité de que la population, la majorité de ses députés et de ses ministres étaient favorables à l'adoption, de même, on peut le dire, que la majorité des députés libéraux canadiens français de l'autre côté de la Chambre, M. Duplessis, évidemment, a cédé et puis s'est rangé à la vie générale.
Il faut dire aussi qu'il y avait les élections de 48 qui s'approchaient également.
Exactement. Et d'ailleurs, je peux vous dire, moi, personnellement, parce que j'ai été un des principaux acteurs de la campagne électorale, j'ai participé à l'organisation de la propagande de l'Union nationale à ce moment-là, je peux vous dire que le drapeau a été l'un des facteurs les plus puissants du résultat fantastique des élections qui ont permis à M. Duplessis de gagner 82 comtés sur 90, soit la totalité des comtés canadiens français de la province. Donc, le plébiscite, le drapeau était plébiscité, de même que l'autonomie, par la grande majorité du peuple canadien français.
Et puis, on connaît la suite, hein, le fleur de lysée tel qu'on le connaît, le drapeau du Québec qui va devenir un symbole très, très fort de l'identité québécoise. Revenons aux origines, parce que tout part de là, le fameux drapeau de Carillon dont on parlait au début. Est-ce qu'il a vraiment flotté, ce drapeau à Carillon? Est-ce qu'on le sait, ça?
Ah, ça, c'est le grand débat. Bayarger en était convaincu parce qu'il interprétait les trous qu'il y avait dans le drapeau comme étant des trous de balles ou des lacérations de sabre, alors que c'est la dégradation naturelle qui les provoquait. C'est embêtant. C'est sûr que quand on regarde la tradition orale, les individus qui sont impliqués dans la chaîne de transmission du drapeau, le frère Beuré, lui, il était effectivement un aumônier de l'armée dans la région du Richelieu. Il a peut-être été présent, on ne le sait pas exactement. Le frère Martinet, qui est le second maillon de la chaîne, lui, c'est le fils d'un sergent de l'armée de Montcalm. Donc, on est avec des individus qui sont quand même proches des événements. C'est sûr que ce n'est pas un drapeau régimentaire comme l'a cru Baillargeau au départ. On est vraiment très loin de ça. Ce n'est pas non plus un drapeau de milice. Les milices canadiennes n'avaient pas de drapeau. Il y a un curé dans les années 1900 qui a avancé la théorie que c'était peut-être un ex-voto offert au sanctuaire de la Vierge à la jeune Lorette, comme on appelait à l'origine le village Huron aujourd'hui, Huron-Wendat, parce qu'on a trouvé des oriflammes similaires dans cet endroit-là, donc qui faisaient penser à ça. C'est sûr que le fait que ce soit une bannière religieuse, ça c'est établi, aucun doute possible, ne serait-ce que par son format.
Ouais.
Mais c'est possible aussi que les aumôniers qui accompagnaient les troupes aient eu des drapeaux avec eux de ce type-là, ne serait-ce que pour rallier les fidèles dans un champ où l'armée était campée. D'ailleurs, c'est ça, en 1756, il y a un petit détachement aux ordres d'un dénommé Delery qui va se placer sous la protection de la Vierge avant de mener une expédition contre le Fort Bull. Donc, la présence de la Vierge est quand même là. On ne peut pas séparer la croix et l'épée de façon aussi nette. Donc, c'est pas impossible que ce drapeau-là ait été amené au lac Champlain pendant la guerre de la conquête, qu'il se soit retrouvé quelque part. Tout dépend, c'est ça, de la tradition orale. Est-ce qu'on se fie à la tradition orale ou est-ce qu'on la rejette entièrement? Donc, c'est l'enjeu est là et le mystère demeure.
Oui, le mystère demeure, là, on le comprend. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous l'avez dit, c'est un étendard religieux aux origines qui demeure toujours un peu mystérieuse. Ça dit quoi sur nous, tout ça?
Ça, c'est la grande question. Je pense que ça en dit surtout sur le parcours du drapeau en lui-même puis de la quête des Canadiens français après la conquête jusqu'au milieu du 20e siècle. C'est vraiment... Parce que ce drapeau-là n'était pas nécessairement destiné à devenir le drapeau du Québec. Disons que c'était un symbole parmi d'autres. C'est vraiment plus un... Je trouve que ce drapeau-là témoigne surtout d'une histoire mouvementée et de l'évolution du Québec aussi. Parce que quand il est mis de l'avant, c'est un symbole monarchiste, un peu... avec des relents religieux. Donc, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'associe à ces valeurs-là. Donc, c'est un drapeau qui a évolué et qui maintenant, c'est comme bien ancré dans le paysage et il n'est plus vraiment remis en question.
Oui, tout à fait. Alors, ce fameux drapeau de Carillon, il a inspiré notre drapeau, celui qu'on connaît maintenant. Il a aussi inspiré une chanson, elle-même inspirée de ce fameux poème de Crémazie dont on parlait au début. On va se laisser là-dessus. Joseph Saussier, baryton, chef de chorale, qui chante justement les louanges du drapeau de Carillon, un enregistrement du début du siècle dernier. Mon invité, je rappelle, Dave Noël, journaliste au Devoir, il est également historien. Il a écrit « Montcalm, général américain », co-auteur également des lieux de pouvoir au Québec, publié chez Boréal. Merci beaucoup, Dave.
Merci, Maxime.
Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Si vous avez des commentaires, suggestions ou autres, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous lire. Histoire au singulier, en commercial, radio, tradeunioncanada.ca. Sinon, notre page Facebook. Là-dessus, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.